Ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, avec Monsieur Bernard Friot. Bonjour monsieur, vous êtes économiste du réseau Salaria. Vous venez nous parler du salaire comme droit politique. Et vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont le dernier qui est sur le site de Radio Présence, pour ceux qui nous regardent, c'est Entretien avec Frédéric Lordon, En travail, conversation sur le communisme. Merci d'être venu à Radio Présence. Vous avez fait un peu de théologie, mais avant beaucoup d'économie. Vous étiez d'abord le bac à Épinal, les Vosges, n'est-ce pas? Et puis... je peux dire le petit séminaire et le grand séminaire à Saint-Dié. Ensuite, vous avez enseigné l'économie à Nancy, à Longwy, ensuite également à Nanterre. Et depuis quelque temps, depuis un certain temps, vous êtes dans une retraite active parce que vous êtes dans le réseau européen de ceux qui pensent que le salariat doit être, non pas réinventé, mais avoir tous ses droits. D'abord, alors, merci. Merci d'être venu dans notre radio.
Ben, merci de l'invitation. Je précise qu'à Nanterre, je n'étais pas économiste. J'ai été pendant 30 ans économiste, effectivement, en Lorraine, à l'IUT, à Nancy, puis à Longwy. Et à Nanterre, j'étais sociologue. Je suis passé, mes 10 dernières années de carrière étaient comme sociologue du travail. Ça a toujours été sur le travail, la sécurité sociale, le salaire, c'est ça, le statut travailleur. Voilà mon objet de recherche.
Et actuellement, vous êtes conférencier, vous écrivez à la fois des livres, que ce soit des conférences gesticulées, c'est très original.
Mais la conférence gesticulée, c'est une façon de mettre en scène des raisonnements, hein, parce que dans les outils d'éducation populaire, il y a le souci de rendre accessibles des choses qui ne sont pas forcément évidentes. Un travail concret, un travail abstrait, par exemple, pour prendre cette simple distinction. Bon, ben, si vous le faites en présentant vos deux jambes, l'une, le travail concret, le travail abstrait, en fait, etc., etc., il y a moyen de visualiser, de rendre directement accessibles des raisonnements. Donc, la conférence gesticulée, c'est une conférence qui s'adresse évidemment au raisonnement, mais... Et les gesticuler, c'est une façon, disons, d'autodérision. Hein. Nous ne sommes pas des artistes, mais nous essayons de rendre, de visualiser, de rendre sensible aussi par un mélange de savoir froid, comme on dit, et puis du savoir chaud né de notre propre expérience professionnelle ou d'une expérience de vie. On rend sensible par le rire aussi, par l'émotion. Des savoirs, c'est le rôle de l'éducation populaire. Et Réseau Salaria est un réseau d'éducation populaire.
Alors, aussi, vous travaillez beaucoup au niveau, j'allais dire, de l'engagement politique, le communisme, avec des travaux de Marx, des travaux de philosophes, puisque avec Frédéric Lordon, vous évoquez également Spinoza. Et comment, en quelques dizaines d'années, les mots ont perdu leur sens, ou peut-être même, vous parlez à certains moments, de l'imposture de la culture stalinienne. Et vos études de théologie sur le christianisme, et comme, j'allais dire, chrétien profondément engagé, vous venez parler de votre foi, ma foi, j'y crois. Comment, à certains moments, vous dites qu'il peut y avoir une transposition dans une sorte de philosophie matérialiste et surtout vous attaquez le libéralisme?
Oui, enfin, mon projet est effectivement un projet pour. Je ne suis pas un anti-capitaliste au sens où le passage au communisme suppose évidemment à la sortie du capitalisme, mais toute ma pratique, c'est de, aussi bien comme chercheur que comme effectivement pratiquant de l'éducation populaire sous des formes diverses et variées, c'est de proposer quelque chose qui a un contenu. Je ne suis pas anti-capitaliste, je suis communiste, effectivement, c'est un mot plein, hein. Je ne suis pas post-capitaliste ou je ne sais pas quoi, enfin, tout ça c'est des mots vides et sur lesquels on ne peut pas construire quoi que ce soit, on ne peut construire que sur un mot plein et le mot communiste qu'il faut effectivement bien sortir de la disqualification dans laquelle l'a conduit le stalinisme, évidemment. Oui.
Une fausse culture marxisante. Parce que
la
vous
posture
voulez
de Staline, c'est Poutine est un Staline au petit pied, actuellement. Hein, c'est-à-dire, nous sommes dans la grande et sainte Russie, hein, nous sommes dans une proposition qui est totalement nationaliste étatiste, hein, et radicalement anticommuniste. Staline, c'est un nationaliste étatiste qui va tuer 900 des 1200 cadres du Parti communiste, par exemple. Là, c'est un anticommuniste absolument acharné. C'est un nationaliste avec ce que ça donne toujours quand il est dictatorial. Ça nous donne aujourd'hui du Poutine. Donc, en aucun cas, on ne peut appeler ça du communisme. Hein. Mais le problème, c'est que, et avec en particulier la gloire qu'il avait eue du fait d'avoir été un vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, c'est que l'imposture intellectuelle du stalinisme, c'est-à-dire le fait d'avoir appelé marxiste-léninisme une pratique et des textes absolument contraires aussi bien à Marx qu'à Lénine, Staline a fait mourir Lénine par exemple, fait que des partis communistes se sont plus construits sur le marxiste-léninisme tel que Staline l'écrit contre Marx et contre Lénine, en particulier avec un truc tout à fait fort encore dans la culture communiste aujourd'hui, c'est-à-dire d'abord prendre le pouvoir d'État, après construire le socialisme, puis le communisme, ce qui est une croyance tout à fait religieuse classique, à d'abord passer de l'autre côté, ensuite le purgatoire, puis le paradis, façon de poser le communisme comme le paradis, une société sans violence,
les lendemains qui chantent,
l'abondance, enfin, etc. Toute une imagerie qui est l'imagerie classique du ciel, hein, c'est pas le ciel là-haut, c'est le ciel demain, mais ça a la même fonction que le croyance dans le ciel, c'est-à-dire une consolation qui nous dispense de construire aujourd'hui le communisme, tout comme la croyance dans le ciel est une consolation qui nous dispense
travailler aujourd'hui,
de construire le présent à partir de l'invitation du Christ.
C'est pas construire un autre monde, parce que vous dites dans Le désir de communisme que le communisme est déjà là et qu'il faut le sauver, qu'il faut garder ses acquis. Mais je voudrais revenir à ce que vous disiez du nationalisme ou des nationalismes, parce que nous évoquions hors antenne un beau texte de Mgr Thomas Halik dans Les Études, que certains de nos auditeurs connaissent, la revue Études, le christianisme instrumentalisé par les nationalismes. Alors justement, ce va-et-vient sans cesse entre la religion qui est instrumentalisée par le politique ou la politique qui est instrumentalisée par le religieux dans des guerres saintes, eh bien, vous dites, revenons vite au travailleur adulte qui est en responsabilité et en capacité de produire de la valeur. Et il y a trois droits. C'est là-dessus que vous insistez, n'est-ce pas ?
Oui, effectivement. Ce qui se construit, moi je suis un analyste du salaire, hein, ce qui se construit au cours du XXe siècle dans la bataille syndicale, c'est un salaire communiste, hein, qu'il faut bien opposer au salaire capitaliste. Le salaire capitaliste, c'est la reconnaissance des besoins d'un supporteur pour faire une tâche qui va être validée comme productive. L'exemple type, c'est le paysan FNSEA. Le paysan FNSEA, il est complètement pris dans l'agro-business. Et qu'est-ce qu'il a comme rémunération ? Ben, ce que lui laisse le Crédit Agricole qui lui a avancé
prêté,
300 000 euros, Bayer qui lui a fourni les intrants et Lactalis ou le central d'achat de Leclerc qui ont acheté ses produits et qui, à travers les prix qu'il lui impose, ponctionne l'essentiel de ce qu'il produit. Et qu'est-ce qu'il lui laisse ? Bah, de quoi encore demain, évidemment, est en train de produire le lait ou le blé qui valorise le capital de ces groupes capitalistes. Donc ça, c'est la rémunération, c'est ce que Marx appelle le prix de la force de travail. Hein. La rémunération capitaliste, c'est la reconnaissance des besoins d'un supporteur pour faire telle tâche. Et s'il n'y a pas de tâche, ben, je suis à poil. C'est ce qu'on a vu pendant le confinement. Les travailleurs indépendants, ou alors ceux qui n'étaient pas reconnue dans le salaire de la convention collective, qui n'avait pas un CDI, et le salaire de la convention collective, qui avait des contrats de mission, qui est de l'intérim, ben, ils ont été à poil. Il n'y avait pas d'activité, ils étaient à poil.
Oui, alors qu'il n'a pas de sécurité sociale et qu'il n'a pas de retraite, pas de droit à la retraite.
Oui, mais non seulement c'est le droit au salaire qui est déjà pour commencer, ils étaient à poil sans droit au salaire, sans droit à la rémunération. Oh. En revanche, et c'est tout l'intérêt de l'expérience vraiment massive du confinement, les travailleurs qui, eux, avaient un salaire de la convention collective avec un CDI, ben, ils ont conservé 84% de leur salaire, quoi qu'ils aient fait, y compris en ne faisant rien du tout.
Oui, mais il y a une sanction, nous l'avons vu, à ceux qui refusaient de se faire vacciner et qui étaient retirés d'un certain statut de travailleur reconnu.
Ça, c'est une autre affaire, précisément. Les 84% hein, du salaire de l'emploi, hein, pour ceux qui avaient un CDI respectant la convention collective et qui ont conservé, quoi qu'ils fassent, 84%. Ça veut dire que le salaire tel qu'il se construit au XXe siècle, ce n'est pas du tout le prix de la force de travail. Hein. Ce n'est pas la mesure de l'activité, puisque l'activité n'y adapte pas. Et pourtant, on a 84% de son salaire. Et alors, effectivement, allons plus loin, les fonctionnaires, eux, ont gardé 100% de leur salaire, quoi qu'ils aient fait. Alors, certaines ont plus travaillé, les soignantes ont davantage travaillé, mais beaucoup d'autres ont été dans la même situation que les autres travailleurs, c'est-à-dire n'ayant pas d'activité et pourtant étant payés à 100%. Pourquoi ? Parce que la grande conquête de la CGT du XXe siècle, c'est la dissociation entre le salaire et l'activité. Je ne suis pas payé pour mon activité, je suis payé pour ma qualification personnelle. C'est moi qui suis titulaire de mon salaire et effectivement, la loi d'août dernier qui suspend les soignants non vaccinés suspend aussi leur traitement. Et là, on est dans une attaque mais frontale contre la fonction publique. L'article 3 de la loi Le Pors de 83 sur le statut de la fonction publique précise bien que tout fonctionnaire suspendu conserve son traitement. Pourquoi ? Parce que le traitement n'est pas lié à l'activité que je mène. C'est ça la grande nouveauté hein, et qui nous fait parler de salaire communiste, Frédéric Lordon et moi, dans le bouquin. C'est que ce n'est pas du tout la reconnaissance de l'activité. Le capitalisme, il paye à l'acte. C'est ça sa pratique. Alors que ce qui se construit comme statut communiste de la personne, ce n'est pas du tout le salaire à l'acte, c'est le salaire comme attribut de la personne, et qui concerne déjà à peu près 17 millions des plus de 18 ans, le tiers, hein, les fonctionnaires, les salariés à statut, la partie des retraités, la moitié des retraités qui a une pension supérieure au SMIC entre 75 et 100% de leur salaire de référence. Enfin, on arrive à 17 millions de personnes qui ont déjà un salaire à la qualification personnelle. Il faut passer à 100%, c'est-à-dire que il faut absolument enrichir la citoyenneté. Hein. La citoyenneté, et c'était une conquête de la bourgeoisie comme classe révolutionnaire quand elle l'était, c'est le fait de poser tout majeur hein, comme en capacité et en responsabilité de la chose publique, hein, à travers le droit de vote et le droit à l'éligibilité. Mais on voit bien maintenant que cette citoyenneté-là est en train de s'épuiser. On voit bien la croissance absolument phénoménale de l'abstention. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'en élisant ces représentants, nous n'avons aucun pouvoir sur la production. Et que la folie écologique, anthropologique, dans laquelle le capitalisme nous conduit, vu la façon dont il organise le travail, ben, nous sommes impuissants. Et donc il s'agit, mais vraiment si nous voulons éviter l'extrême droite, hein, parce que lorsque il y a une crise, hein, nous avons une classe dirigeante qui aujourd'hui ne remporte plus l'adhésion sur la façon, sur son rôle essentiel qui est d'organiser le travail. Il n'y a plus d'adhésion au travail tel que le capitalisme l'organise. Et donc, du coup, beaucoup de gens perdent leurs repères et l'extrême droite arrive toujours dans ces situations-là. Si on veut éviter cela, il faut absolument assumer des conquêtes que nous avons déjà faites, hein, qui posent qui enrichissent la citoyenneté hein, et qui posent tout adulte de plus de 18 ans comme en capacité et en responsabilité de produire la valeur avec donc le salaire comme droit politique, le premier niveau de qualification pour tout le monde à 18 ans et les 1700 euros qui vont avec.
Trois droits, vous viendrez tout à l'heure après.
Alors,
notre
troisième
pause,
droit, effectivement.
S'il vous plaît, nous allons peut-être faire une petite pause parce que j'ai peur que certains auditeurs décrochent de votre conviction. Ma foi, j'y crois. Et vous nous avez apporté un beau chant de Dietrich Buxtehude que nous écoutons. Vous expliquerez pourquoi vous l'avez choisi et nous reviendrons sur ces droits du travailleur.
Trois
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Aujourd'hui, avec Bernard Friot, vous êtes sociologue, économiste. Vous travaillez pour le droit au salaire communiste, le droit politique, et vous faites partie du réseau européen, du réseau Salaria. Vous avez choisi cette musique de Buxtehude. Vous me disiez, c'est pour des raisons à la fois personnelles, d'un deuil.
C'est une musique admirable, bien sûr. C'est donc Membra Jesu Nostri, où on reprend c'est une méditation sur le corps du Christ crucifié, membre après membre, la tête. Et là, c'est Adiedua, nous sommes sur les genoux du Christ. Bon, ce sont ces textes magnifiques et cette musique magnifique. Et oui, j'y tiens en particulier à ce Adiedua, parce que nous l'avons passé en boucle, ma femme et moi, au moment de l'agonie de son père. Et nous sommes là dans cette... c'est extrêmement important. Le christianisme n'est pas l'élimination du tragique. Il y a du tragique dans la vie, aussi bien individuelle que collective.
Et votre psaume préféré, vous me disiez, c'est le psaume 1.
Oui, parce que ce tragique, nous en sommes vainqueurs. Le Christ est crucifié, il est crucifié... S'il n'est pas mort dans son lit, c'est qu'il s'est opposé aux puissants, il s'est opposé aux familles sacerdotales du temple qui tenaient à la fois la religion et l'économie, il s'est opposé à Pilate et à Hérode pour la politique, et il est crucifié, il ne meurt pas dans son lit, notre Dieu. Mais il est ressuscité, Jésus crucifié, c'est le Christ ressuscité.
Qui vit aujourd'hui.
Nous sommes victorieux du tragique. C'est extrêmement important à une époque où nous sommes tentés aujourd'hui de prendre le capitalisme comme une espèce de structure de domination qui génère des victimes et dont nous ne pourrions pas sortir. Non, bien sûr que nous avons déjà construit, une classe révolutionnaire a déjà commencé à construire des alternatives au capitalisme, dans le capitalisme même.
Et ça me faisait penser à la prière pour gagner la paix du cardinal Etchegaray. Elle est très courte, mais elle est un peu plus longue, on la trouvera sur Internet. Qu'il est difficile de gagner la paix, plus difficile que de gagner une guerre, qu'il est difficile d'être prophète de la paix. Je lève le doigt vers un avenir gonflé d'espoir. Les réalistes me traitent d'idéaliste. Si je le baisse sur le présent écrasé d'échecs, les utopistes me taxent de défaitiste. Seigneur, donne-moi le courage de n'accepter que de toi la rude vocation de prophète et d'être à tout coup perdant parmi les hommes. Mais je conclus ou je dis, c'est la construction du royaume de Dieu pour vous sur terre.
Ah ben, il n'y a pas d'autre monde. Nous croyons dans un monde autre parce que précisément notre humanité est en capacité de faire advenir l'inouï dont le vivant et la nature sont porteurs. Nous ne sommes pas dans un monde fini auquel nous devrions nous adapter. Nous avons une vocation d'espèce humaine qui est une vocation de déjouer la sélection naturelle, de déjouer l'évolution, de construire notre propre monde dans le respect évidemment du reste du vivant, avec le reste du vivant et de mener le reste du vivant hors du déterminisme de l'évolution naturelle. C'est ça, le monde autre que nous avons la responsabilité de créer. Je le dis contre une certaine tentation aujourd'hui devant le malheur dont le capitalisme, dans lequel le capitalisme met le travail, une tentation de démission collective, de faire une société dans laquelle il n'y a plus de travail, plus de valeur, plus de monnaie, une espèce de société où, ici et maintenant, on vit en harmonie avec la nature, vue comme une espèce de divinité nouvelle. Aussi bien ma pratique chrétienne de construire le réel contre ce qui s'impose comme réalité, dans un travail d'espérance, hein, comme dit Paul, hein, espérer, croire, c'est posséder ce qu'on espère, hein, c'est-à-dire non pas par une espèce d'acte volontariste, hein, mais parce que en permanence nous faisons un travail d'espérance. C'est effectivement la même dynamique que la dynamique par laquelle le mouvement réel, comme disent Marx et Engels, par lequel le communisme se construit dans le capitalisme et nous sort du capitalisme.
Pie XI en 1937 avait dit le communisme athée est intrinsèquement pervers dans l'encyclique Le Liber Redemptor, Divinis Redemptoris. Alors beaucoup de nos auditeurs vont dire oui, mais alors on ne peut pas être franc-maçon et catholique, on ne peut pas être communiste et catholique. Et alors vous dites non, mais il faut construire ce droit de la propriété d'usage, maîtriser les programmes de production et l'outil de production, il faut co-décider de la création. Trois droits du salariat.
Que il est absolument fondamental, hein, encore une fois, si nous voulons éviter que la crise du capitalisme nous mène au pire. Hein. Une classe dirigeante, hein, la classe dirigeante, c'est celle qui est chargée du travail, de la production, d'organiser la production, d'organiser la construction de ce monde, hein, comme patrimoine extérieur. Hein. L'espèce humaine est la seule espèce qui accumule en dehors de ses gènes, en dehors de son de sa physiologie, disons, un patrimoine que chacun doit s'approprier, hein, avec un travail d'individualisation qui est au cœur du communisme, hein, par appropriation de tout le patrimoine de l'humanité, ce qui va contre tout nationalisme qui ne nous approprierait que le capital, que le patrimoine accumulé localement.
Un travail collectif, c'est pour ça que vous nous avez apporté un beau poème, celui d'Aragon, par lequel nous allons conclure cet entretien. Il faudra que vous reveniez, cher Bernard Friot. Vous nommez Présent, ta présence, c'est un poème que vous avez vous-même rédigé.
Non, disons que j'ai légèrement détourné un poème d'Aragon. Aragon, c'est un poème, c'est un poète et un romancier, un journaliste. Enfin, c'est un très très grand auteur du XXe siècle. Et je voudrais lire effectivement un détournement de son poème. Je nomme présent ta présence. Je nomme présent ta présence, sans le songe, ni la mémoire, tout ce qui fut, je le repense à partir de toi pour miroir. Et j'imagine à ta semblance un avenir pour t'y savoir. Je n'ai rêve que d'espérance, je n'ai qu'amour à demain croire. Aimer n'y sera plus romance, car ce sera notre victoire contre la mort qu'être présence aux amants d'après notre soir.
Alors, cher Bernard, on travaille et à bientôt.
À bientôt. J'insiste quand même sur le fait que nous ne sommes dans le présent que si nous voyons l'autre, hein, Jésus-Christ, hein, qui en permanence nous fait sortir du regret du passé ou de l'espoir dans l'avenir pour transformer notre présent par l'action, hein, par le travail d'espérance, en éternité.
Merci Bernard. Et merci à Christophe pour l'enregistrement. Mmh.